Disons merci à Dieu pour cette étape. Nous allons appeler les évangélistes de la paroisse pour la lecture de la parole de Dieu qui prépare nos cœurs à écouter sa parole. Il s'agit de l'évangéliste Daniel, l'évangéliste Lucie, l'évangéliste Merveille. Bienvenue.
Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, chapitre 1er, à partir du verset 16. Ésaïe, chapitre 1er, verset 16, il est dit: Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos méchantes actions et cessez de faire le mal. Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assister l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin. Plaidez la cause de la veuve. Venez et discutons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera. L'Éternel le déclare, parole du Seigneur. Amen.
Nous lisons l'Évangile selon Marc, au chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 27 jusqu'au premier verset du chapitre 9. Jésus et ses disciples partirent ensuite vers les villages proches de Césarée de Philippe. En chemin, il leur demanda: « Que disent les gens à mon sujet ?» Ils lui répondirent: « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es l'un des prophètes. » « Et vous ?» leur demanda Jésus. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit: « Tu es le Messie. » Alors Jésus leur ordonna sévèrement de n'en parler à personne. Ensuite, Jésus se mit à donner cet enseignement à ses disciples. « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, les anciens, les chefs des prêtres, et les maîtres de la loi les rejetteront. Il sera mis à mort et, après 3 jours, il se relèvera de la mort. » Il leur annonçait cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit sévèrement: « Va-t'en loin de moi, Satan, dit-il, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et dit à tous: « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suivent. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner pour racheter? Que pourrait-il donner pour racheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles face aux gens d'aujourd'hui, infidèles et rebelles à Dieu, alors le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus leur dit encore: je vous le déclare, c'est la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen.
Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. Actes des apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31, je lis au nom de Jésus. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils les eurent attendus, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Le roi de la terre s'est soulevé et le prince s'est soligué contre le Seigneur et contre Toé et contre Soé. Enfin, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oué, Hérode et Post-Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils y priaient, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen.
Que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ce matin, ce grand jour qu'il nous donne afin que nous puissions être témoins non seulement du baptême de nos frères et sœurs, mais en même temps que nous puissions conclure ensemble un enseignement important qui nous a permis d'avoir depuis le début de la semaine jusque maintenant. Merci beaucoup pour le texte biblique que nous venons de lire. Et je vais nous prier de pouvoir ajouter à celui d'Ésaïe, chapitre 1, le verset 10 jusqu'au verset 15, parce que le texte d'Ésaïe est celui qui va faire l'objet de notre méditation ce matin. Ésaïe chapitre 1er, les versets 15 jusqu'à les versets 16 et jusqu'à 15 sont déjà lus. Nous allons seulement ajouter le verset 10 à 15 et je conduis la lecture dans le nom de Jésus. Écoutez la parole du Seigneur, grand de Sodome. Prêtez l'oreille à l'instruction de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes des béliers, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Les sangs des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'avais plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes, la fumée, je l'ai en horreur. Néoménie, sabbat, convocation d'assemblée, je n'en peux plus des forfaits et des fêtes. Vos néomélies et vos solennités, je les déteste. Elles, mes sons et fardeaux, je suis là de les supporter. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Je ne sais pas s'il faut dire amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Notre Dieu mérite la gloire, quelle que soit sa manière de nous dire les choses clairement. Il mérite la gloire. Et je crois qu'à la parole de Dieu, nous devons toujours dire Amen. Pendant cette semaine, nous nous sommes entretenus sur un thème intitulé « Pour une église vivante et stable ». Et nous avons attiré l'attention sur la responsabilité du disciple pour la construction et l'édification d'une église vivante et forte. L'église, comme nous l'avons définie, c'est la famille ou l'assemblée des enfants de Dieu, ceux qui ont été mis à part pour Dieu, afin de servir et de vivre la volonté de Dieu de manière quotidienne dans leur vie. C'est ça ce que nous avons appelé l'Église. Nous avons dit que l'Église, c'est une construction de Dieu lui-même qui a la vision que son Église dans le monde soit vivante et qu'elle soit stable. Et le texte que nous avons lu le dimanche passé, Jésus disait à Pierre, « Même la puissance de la mort ne pourra tenir contre mon Église. » Et alors nous avons dit l'Église, et c'est la chose la plus précieuse de Dieu dans le monde. La chose que Dieu prend du plaisir à regarder dans le monde, c'est l'Église. Et la Bible dit, lorsque Jésus reviendra avec ses anges, il viendra prendre son Église. Jésus ne viendra pas prendre les gens parce qu'ils ont été influents dans le monde. Jésus ne viendra pas prendre les gens qui ont été les plus connus dans le monde. Il viendra prendre son Église. Pendant toute la semaine, si je peux faire une petite synthèse, nous avons répondu particulièrement à deux questions. La première question était de dire quelle est notre responsabilité? Qu'est-ce que Dieu attend de nous comme membres de l'Église pour que nous puissions l'édifier? Quelle est notre responsabilité? Et la deuxième question, comment reconnaître l'image ou le portrait d'une église vivante? Parmi les responsabilités, nous avons dit, la première responsabilité que Dieu attend d'un enfant de Dieu pour la construction de l'église vivante, c'est la connaissance de la vraie identité de Jésus et l'acceptation de son œuvre salvatrice. Aussi longtemps que tu es dans le monde, tu ne reconnais pas Jésus et tu ne le confesses pas comme Seigneur et Sauveur, je suis désolé de te dire que Dieu regrette de t'avoir fait exister. Parce que c'est la première chose qu'il attend de toi, reconnaître Jésus et son œuvre salvatrice. La deuxième chose, nous avons dit, c'est que Dieu attend de nous comme disciples. Il attend de nous l'acceptation de l'abandon de soi pour suivre Jésus. Il attend que nous puissions nous renier afin de nous mettre sur la route et marcher avec lui. Aussi longtemps que tu prends encore ta vie et tu ne veux pas la remettre entre les mains de Jésus, tu perds ton temps sur la terre et tu ne comprends pas pourquoi tu existes. La troisième chose que nous avons dit dans la responsabilité, nous avons dit Dieu attend de nous la transformation intérieure. L'Église est construite par des personnes transformées intérieurement. L'Église n'est pas construite par les personnes qui sont fidèles au programme de l'Église, au programme de la paroisse. L'Église est construite par des gens qui ont une transformation intérieure et qui vivent quotidiennement pour la gloire de Dieu. La deuxième question, c'était quelle est l'image ou le portrait de l'Église vivante et stable. La première chose, nous avons dit, l'Église vivante et stable a comme qualité l'unité des membres dans la vie et dans le service. L'unité des membres dans la vie et dans le service. Ils avaient un même esprit, un même cœur. Les premiers disciples de Jésus-Christ. L'unité, c'est la première chose sur laquelle nous avons attiré l'attention. La deuxième chose, c'est la communion fraternelle. L'Église qui s'est fait vivante et stable, elle vit dans la communion. Nous nous aimons les uns les autres parce que nous appartenons à un seul Père. Nous sommes maintenant les filles et les fils de Dieu. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'Église non plus. Et la dernière chose, nous avons dit, l'Église est vivante à une passion ou une vision vers les âmes perdues. Et nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, le Seigneur attend que nous puissions aller à la rencontre de ceux-là qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle. Et ce que nous avons appelé la vision missionnaire. Et ça, nous avons dit hier, nous avons la vision missionnaire pour trois grandes raisons. La première chose, parce que nous aimons Dieu et nous voulons partager ce que nous avons reçu de Dieu avec les autres. On n'a pas besoin qu'on nous sensibilise pour aller évangéliser. L'amour que nous avons de Dieu elle-même suffit pour nous sensibiliser à aller partager ce que nous avons reçu de Dieu avec les autres. La deuxième chose, nous avons dit, nous avons la vision missionnaire parce que comme Église, nous avons le devoir d'obéir à la parole de Dieu. Jésus, après la résurrection, dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Et dans la pleine obéissance, chacun de nous est fait évangéliste. Chacun en ce qui les concerne. La troisième chose, nous avons dit, nous annonçons la bonne nouvelle, nous avons la vision missionnaire, parce que nous restons sous la sensibilité du Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui est en nous, il nous motive toujours à aller et à annoncer la bonne nouvelle aux autres, les amener à Christ. Alléluia. Ce matin, nous voulons conclure ce message avec le texte d'Ésaïe, chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 20. Bien évidemment, nous sommes, pendant la semaine, nous sommes revenus sur les autres textes que nous avons lus. Le texte d'Ésaïe, chapitre 1er, nous révèle que Dieu porte une attention particulière sur comment nous nous engageons à le servir et à le suivre dans le monde. Je vais vous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église, dans la vision de Dieu, c'est défini à terme des relations avec Dieu. Pour savoir si tu es membre de l'Église, ce qui compte devant le Seigneur, ce n'est pas que parce que tu es là chaque dimanche, tu es membre de l'Église. Non. Ce qui compte devant le Seigneur, c'est la relation que tu entretiens avec lui qui fait de nous des membres de l'Église. Vous vous rappelez le dimanche? Le pasteur nous a rappelé qu'il est possible d'être membre à Gomaville, d'être membre à l'aumônerie de l'ICTM, mais de ne jamais appartenir à l'Église. Parce que ce n'est pas parce que tu es présent chaque dimanche, ce n'est pas parce que tu respectes les programmes que tu es membre de l'Église. Non. Ce qui fait de toi un membre de l'Église, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Et alors, je vous rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus viendra dans le monde, il ne viendra pas prendre les gens qui sont fidèles au programme de la paroisse. Il ne viendra pas prendre les gens qui sont là chaque jour quand il y a appel à la paroisse. Il viendra prendre ceux-là qui lui sont agréables et qui sont membres de son Église. Une bonne relation avec Dieu fait de vous un membre évident et automatique de l'Église. Alors qu'une mauvaise relation avec Dieu implique que vous n'êtes pas encore membre de l'Église et vous n'êtes pas encore membre de la famille de Dieu. Quand nous nous réunissons ici, vous nous accompagnez seulement. Parce que nous appartenons à Dieu. Mais aussi longtemps que vous restez dans votre nature humaine, vous n'appartenez pas à l'Église, celle qui est en train d'attendre le retour de Jésus-Christ. Ces textes, nous les divisons à trois grandes parties, et quand nous aurons parlé de ces trois grandes parties, nous allons nous arrêter là-bas. La première partie que nous observons dans ces textes, nous lisons le verset 10 jusqu'au verset 15. Dans cette première partie, le prophète Ésaïe nous présente la mauvaise vision de la relation avec Dieu, la mauvaise vision de ce qu'on appellerait Église. Autrement, on allait dire une mauvaise vision sur l'Église. Et voici ce que la Bible dit. Je ne vais plus lire les textes, vous pouvez me suivre à partir de vos Bibles. La relation avec Dieu, c'est là que nous les lisons dans ce texte d'Ésaïe, chapitre 1, les versets 10 jusqu'à 15. La relation avec Dieu ne se définit pas, premièrement, par la multitude des sacrifices. La relation avec Dieu ne se définit pas par une multitude de sacrifices. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de sacrifices que tu appartiens à Dieu. Les sacrifices dont il est question ici, ce sont par exemple les offrandes. Dieu ne se laisse pas influencer par nos offrandes. D'ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous serons devant le Seigneur, il ne nous posera pas la question de dire « Tu as donné combien à l'église ?» Sinon, les pauvres ne seraient pas au ciel, n'est-ce pas? Oui, tu serais au ciel avec combien? Si c'était les offrandes qui amenaient les gens au ciel, tu n'y serais pas. Peut-être, parce qu'il y a des gens qui ont donné plus. Mais Dieu ne nous fait pas ses enfants, ses fils et ses filles parce que nous donnons beaucoup d'offrandes. Bien évidemment, nous avons le devoir de donner des offrandes. Mais en même temps, nous devons comprendre que ce n'est pas à cause de ces sacrifices que nous serons devant le Seigneur. Dieu qui nous demande de les servir, quand il nous demande de les servir, c'est une grâce seulement de nous associer à son œuvre. Mais en réalité, c'est que le monde et tout ce qu'il contient appartient au Seigneur. Et même quand tu ne veux pas donner l'offrande, ça ne touche pas le cœur de Dieu. Parce qu'il te regarde seulement, il voit que tu ne comprends pas. Il peut te dire aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de ton offrande. Tu viens donner, il refuse. Tu ne feras pas de procès contre lui. Il nous arrive des fois que nous donnons les offrandes comme si vraiment tout le monde à Mungu. En réalité, Dieu a le monde et tout ce qui le contient. Nous devons donner nos offrandes, pas parce que nous voulons gagner la confiance de Dieu, mais parce que nous aimons Dieu et nous voulons expliquer cet amour, exprimer cet amour à travers nos actions concrètes, et les offrandes font partie de ces actions-là. Plusieurs sont venus à l'église et leur témoignage, quand tu leur demandes, ils disent « Oui, oui, moi je suis parmi les gens qui contribuent là-bas. C'est nous qui sommes en train de contribuer là-bas pour que l'œuvre avance. » Ça ne suffit pas pour que tu sois enfant de Dieu. Tu risques de te retrouver au ciel avec tout ce que tu as donné. Et Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu. La deuxième chose que Ésaïe souligne ici, dans la multitude des sacrifices, nous pouvons aussi voir les œuvres ou les services à l'église. Ce n'est pas parce que tu travailles à l'église que tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es serviteur, peut-être que tu es dans la chorale, tu es dans la diaconie, peut-être que tu es dans tel service, peut-être que tu as déjà choisi de faire ceci à l'église. Ce n'est pas parce que tu fais cela que tu appartiens au Seigneur. Les services que nous rendons ne fait pas de nous des enfants de Dieu. La Bible dit, Dieu peut utiliser même autre chose en dehors de nous. Je ne suis pas en train de nous décourager, mais je vais nous amener à comprendre que tu peux même dire, chaque jour je viendrai balayer ce temple. Ça ne fera pas de toi un enfant de Dieu. Tu viendras balayer, nous arrivons, nous salissons, nous rentrons, tu viens balayer, encore tu reviens. Mais ça ne fera pas de toi un enfant de Dieu. Les gens se sont perdus à l'église parce qu'ils ont resté attachés sur ce qu'il faut à l'église et ils croient qu'à travers cela, moi-même, je suis déjà connu. Je vais dire même à quelqu'un, tu peux être connu au bureau du pasteur. Quand le pasteur cite les membres de la paroisse, il te cite. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Le pasteur, lui, te connaît, mais celui qui te connaît mieux, c'est Dieu lui-même. Alléluia. La deuxième chose que Ésaïe souligne ici, après les multitudes de sacrifices, il dit la chose qui énerve Dieu, c'est que certains viennent devant le Seigneur indignement. Il s'agit ici de venir devant Dieu sans être connu par lui. et c'est une perte de temps. Tu es présent à l'église, mais tu n'es pas connu par lui. C'est une perte de temps. Pendant la semaine, nous avons parlé des hypocrites. Dans l'église, tu peux être à l'église, mais tu fais semblant. Bien-aimé, au ciel, il n'y aura pas le temps de se chercher mutuellement. Peut-être je peux dire ça. Tu ne viens pas à l'église pour que le pasteur voie que tu as été là. Il a déjà dit, ah, vraiment, Maraka m'a suffi que Koukanis allait où le pasteur dira quoi. Ça fait longtemps qu'on a suffi que tu es dans Koukanis. Ce n'est pas à cause du pasteur que tu viens à l'église. Tu es là parce que tu as une relation particulière avec Dieu. Et c'est cette relation qui te motive à être présent parce que tu es en train de servir le Seigneur. Alors Dieu, à travers le prophète Esaïe, dit, il y a des personnes qui arrivent devant le Seigneur indignement. Est-ce que toi-même, tu es digne d'arriver devant le Seigneur aujourd'hui? Ou tu es seulement venu, bon, parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Quand nous lisons les versets 13 jusqu'à 15, Dieu, à travers la bouche d'Esaïe, dit, toutes ces choses que vous faites, alors que vous n'êtes pas attaché à ma volonté, j'en ai marre. Je n'aime pas ces choses-là. Je n'aime pas ces sacrifices que vous faites, ces offrandes que vous amenez alors que vous ne m'aimez pas. Votre manière de vous présenter devant moi de manière indigne, ça ne me plaît pas et j'en ai marre. Ça m'est une horreur. Et ça, il le dit à toi et à moi afin que nous puissions regarder qui sommes-nous devant le Seigneur et comment sommes-nous en train de marcher avec lui. Maintenant, quand nous allons au verset 16 jusqu'au verset 18, c'est la deuxième partie de notre texte. Alors que Dieu ne se plaît pas des sacrifices, alors qu'il ne se plaît pas de nos présentations devant lui, il dit la chose qu'il veut, c'est la bonne relation avec lui. Au lieu de rester attaché aux futilités de ce monde, au lieu de rester attaché aux choses qui ne vous aident pas à avancer dans votre vie spirituelle et qui vous perdent votre temps sur la terre, Dieu dit à travers Esaïe au verset 18, il dit, lavez-vous. Il y a des verbes conjugués à l'impératif ici. La première chose que vous devez faire, lavez-vous. La deuxième chose, purifiez-vous, ôtez le mal devant Dieu, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, chassez celui qui fait le mal, faites le droit à l'orphelin et défendez la veuve. Et d'ici vous faites ces choses, c'est ça qui attire mon attention. Lorsque le Seigneur trouve que tu te sanctifies, tu as une vie de sanctification à telle sorte que tu ne veux pas que les souillures se passent, se commettent dans ta vie. C'est la chose qui plaît au Seigneur. Quand le Seigneur te voit, tu recherches la justice, tu fais le bien, tu fais le droit à l'orphelin et à la veuve. Il dit, c'est ça la chose qui m'intéresse. Quand je lis ce texte, bien-aimé dans le Seigneur, je comprends que la solution au problème de la relation avec Dieu, parce que comme nous lisons dans ce texte ici, Dieu dit, venez et discutons, verset 18. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, c'est ça ma version qui dit, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. La solution au problème de l'humanité, cette humanité qui est attirée vers le mal, cette humanité qui est dans une nature pécheresse, la solution à ces problèmes, la solution qui peut t'aider à quitter la futilité et les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, La solution pour que tu sois une personne de valeur devant le Seigneur ne se trouve pas à toi, elle se trouve à Dieu lui-même. Bien-aimé, les mensonges qui t'enveloppent facilement, la débauche qui t'enveloppe facilement, la corruption qui t'enveloppe facilement, l'injustice qui t'enveloppe facilement, cela ne trouvera pas de solution à toi-même. Tu feras la discipline et la discipline, mais après, tu vas te retrouver en train de revenir sur la même chose. Il y avait un frère qui a dit vraiment aujourd'hui, moi-même, je viens de me décider de ne plus jamais boire, parce que quand je bois, vous attendez quand je parle de boire, hein? Quand je bois, ça m'amène loin de la volonté de Dieu. Il a pris la décision et après 2 semaines, on le retrouve. Il dit, mais pasteur, j'ai quand même essayé de faire 2 semaines, mais bon, malheureusement, ça n'a pas marché. C'est un garçon que j'accompagnais en famille, qui venait souvent me rencontrer en famille. Il prend la décision, il dit, pasteur, cette fois-ci, je te dis, moi ici, je ne boirai plus. Et une autre fois, il vient à courir, il dit, pasteur, vraiment, pardonnez-moi, pardonnez-moi. J'ai dit, je te pardonne, qu'est-ce que tu as fait? C'est pasteur René Chacougnon, vraiment, pardon. Le problème qui s'est passé dans la vie de ce frère, c'est que lorsqu'il prenait la décision, il la prenait à lui-même. Et toutes les décisions qui dépendent de toi et qui n'ont pas de fondement sur Christ lui-même, ce sont des décisions qui sont comme la construction sur le sable. Vous savez, même si tu construis sur le sable, tu mets des poches et des poches et des poches de sable, le sable reste sable. Et quand la pluie viendra, le sable va couler. Nous en avons parlé de celui qui construit sur les rocs et celui qui construit sur les sables. Les problèmes que nous avons à l'église, c'est que les gens ont appris à faire le mal et quand ils veulent changer, ils s'enferment dans leur chambre. Ils disent vraiment, cette fois-ci, je vais faire l'effort. Cette fois-ci, ça va aller. Et le lendemain, ils se retrouvent en train de revenir sur la même chose. Les problèmes que tu as, mon frère, les problèmes que tu as, ma soeur, c'est que tu n'as jamais été avec celui qui a la solution. C'est lui qui t'a dit ce matin, viens, discutons. Et je prie que ce matin, tu discutes avec celui-là. Que tu lui dises les vrais problèmes que tu en sais quoi. On continue à t'acquiser de la même chose. On continue à t'acquiser de la même chose. C'est toujours toi qu'on est en train de soupçonner. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas en connexion avec celui qui doit changer ta vie, celui qui toi t'a donné une manière de vivre. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce que le Seigneur te donne. Il te dit, venez discutons. Si vos péchés sont rouges, moi je les rendrai blancs et vous serez blancs comme la neige. Ma prière ce matin, c'est que tu acceptes de venir et tu discutes avec Dieu. Que tu acceptes de venir devant Dieu et dire, Seigneur, je ne comprends pas comment, je ne suis jamais sorti de cette situation. Je crois que j'ai besoin de ta grâce. Et le Seigneur est prêt, celui qui te dit, viens, discutons. Nous sommes des êtres très aimés par Dieu. Le Seigneur nous a créés comme son projet. Quand il me voit, il dit, oh, ce petit fiston que je voulais créer est là. Ça le réjouit quand je reste attaché à sa volonté. Mais quelles que soient les choses que je ferai dans le monde, aussi longtemps que je ne suis pas attaché à la volonté de Dieu, je perds mon temps. Et la Bible dit, à quoi te servira-t-il de gagner tout le monde entier et de perdre ton âme? Ma sœur, à quoi te servira-t-il qu'on te donne tout ce qu'il faut dans ce monde, mais enfin tu perds ton âme? Dieu dit, le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est toi. Dieu est encore en train de sauver. Le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est toi qui n'es pas encore venu discuter avec lui. Et quand tu viendras discuter avec lui, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie va changer. Tu vas devenir membre de l'église et quand Jésus revient prendre son église, alors que tu es déjà membre de l'église, tu entres dans le royaume des cieux. Je vais vous rappeler que sur la terre, nous avons quelques temps seulement. La terre ici, nous l'habitons comme des pèlerins. Quelqu'un a chanté, il a dit, pèlerins sur la terre. Nous sommes des pèlerins. D'ailleurs, tu ne sais pas si tu as encore combien d'années. Et si tu ne sais pas si tu as encore combien d'années, qu'est-ce qui te traîne pour que tu restes dans les choses et les futilités qui ne peuvent pas t'aider? C'est là que la troisième partie nous amène, la troisième partie de ce texte. Le résultat, c'est au verset 19 et au verset 20. Dieu dit, si vous écoutez, vous mangerez les bonnes choses du pays. Si vous écoutez cet appel et si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui doivent changer dans votre vie, vous serez les bienheureux. Vous mangerez les bonnes choses de ce pays. Et quand je réfléchissais sur ce texte, je me disais, quand nous ne mangeons pas les bonnes choses de ce pays ici, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est notre problème. Dieu nous a placés dans le monde afin que toutes les bonnes choses nous appartiennent. Et quand nous ne recevons pas ces bonnes choses, bien aimé, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de nous-mêmes. Et j'ai pensé en même temps qu'il arrive des fois que le Seigneur s'étonne. Nous prenons le temps, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, dit, mais je vous ai tout donné. Si vous restez obéissant, si vous acceptez de vous attacher à moi, vous mangerez les bonnes choses de ce pays. Le problème, c'est que quand vous arrivez dans le monde, vous vous attachez aux choses du monde. Et alors, avec le monde, vous ne pouvez jamais avoir les bonnes choses de ce pays. Je suis en train de penser que même sur le plan pratique, le problème de ce pays, c'est nous. Le problème de la région, c'est nous. Nous devons nous examiner et dire quelle est notre responsabilité. Parce que Dieu dit, si vous refusez, alors attendez l'épée et l'épée va vous dévorer. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous-mêmes. Et quand nous allons à Ésaïe chapitre 59, il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie. Parce qu'il se rend compte que même s'il le faisait, tu penserais que ça vient de toi. Et puis il ne fait pas. Il y a des choses que Dieu ne fait pas encore dans ta famille parce qu'il ne te trouve pas attaché à lui. Et la parole de Dieu est claire. Les bonnes choses appartiennent à ceux-là qui sont obéissants. Et les mauvaises choses appartiennent à ceux-là qui désobéissent. Alors moi je réfléchissais concrètement, je me disais, comment voudrions-nous que les voleurs diminuent dans la communauté alors qu'il y a des gens qui reçoivent des salaires très élevés et les autres qui ne reçoivent rien? Tu crois que quand tu es assis là à côté, toi tu reçois $500, l'autre lui, il ne reçoit rien. Si tu fais tomber ton $10, il va te laisser, il va te dire ton $10 est ici. C'est là que Dieu dit, faites la justice. Et quand vous lisez Ésaïe 58, il dit, les problèmes que vous avez, c'est que vous venez devant le Seigneur, vous faites même des jeûnes de prière et vous demandez que Dieu change les conditions de vie. Mais en même temps que vous êtes en train de jeûner, vous êtes aussi en train de faire le mal contre les autres. Et Dieu dit, je n'écoute pas vos prières. Ce n'est pas comme ça qu'il faut jeûner devant le Seigneur. Nous en avons parlé la vie de la communion pendant la semaine. L'église doit être un lieu de communion fraternelle, un lieu dans lequel ceux-là qui sont blessés trouvent guérison, un lieu dans lequel ceux-là qui ne sont pas valorisés dans leur nature, qu'ils se sentent valorisés devant le Seigneur. Cette responsabilité est liée à toi-même. Et c'est à toi que Dieu est en train de dire ceci. Il te dit, viens, on discute. Parce que Dieu, il veut que tu sortes de cette nature inutile que tu occupes. Tu es un projet de Dieu. Tu es une créature aimée de Dieu. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu saches te connecter à celui qui t'a donné vie. C'est lui qui te permet d'être ce que tu es. C'est lui qui agit dans ta vie. Et il est celui qui te rendra meilleur. Et il est celui qui te rendra la personne la plus précieuse de Dieu dans le monde. Ma prière ce matin, c'est que Dieu fasse de toi la personne la plus précieuse devant lui dans ce monde. Ma prière de ce matin, c'est que Dieu t'accorde toutes les bonnes choses afin que tu vives dans la joie, que tu vives dans la paix, que tu vives dans la grâce. Est-ce que nous en avons besoin? Est-ce que nous avons besoin de bonnes choses dans ce pays? Et Dieu dit, le problème, ce n'est pas moi, le problème, c'est vous. S'il y a encore quelqu'un ici qui jusque-là reste dans le monde et ne veut pas s'attacher à Dieu, c'est celui-là qui est problème. Et c'est à cause de toi que le monde ne voit même pas la gloire de Dieu, parce que tu as choisi la mauvaise voie. Tu as oublié celui qui t'a sauvé. Tu as oublié celui qui veut faire de toi son enfant. Tu as oublié celui qui veut faire de toi la personne la plus précieuse dans le monde. Et aussi longtemps que tu es dans les futilités, tu perds ton temps. Le texte nous a dit, ce n'est pas à cause de vos sacrifices que je vous apprécie. Ce n'est pas à cause de tout ce que vous faites. D'ailleurs, quand vous vous présentez devant moi de manière indigne, j'en ai marre. Je ne me réjouis pas de vos rencontres parce que vous ne me connaissez pas, parce que vous ne vous attachez pas à ce qui doit être fait, parce que vous ne vous attachez pas à la justice. Bien-aimé, Dieu ne doit pas continuer à avoir marre parce que tu ne fais pas sa volonté. Et je te dis, si tu n'as pas réussi à quitter ce monde, si tu n'as pas réussi à quitter ta nature, c'est parce que souvent tu fais des efforts personnels. Mais ce matin, tu as intérêt de t'approcher devant Dieu et de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je viens discuter avec toi. Je viens, Seigneur Dieu, afin que ma vie change. Pour que désormais, toutes les prières que je vais faire, Seigneur, devant toi, trouve gué des causes et sois répondu à ton nom. Que tout ce que je vais faire devant toi, Seigneur Dieu, puisse glorifier ton nom. Que mes offrandes, que mes présences pendant les moments de service soient un honneur pour toi et soient faites pour la gloire de ton nom. C'est ce que Dieu veut de nous pour construire une église vivante et stable. Bien-aimés, je vais nous demander de prier le Seigneur. Je vais nous demander de prier le Seigneur. Nous ne faisons qu'une conclusion. Et pendant ce temps, le Seigneur nous dit, toutes les fois que vous vous présentez devant moi, alors que vous n'êtes pas dans la bonne relation avec moi, vous perdez votre temps. Je regrette pourquoi je vous ai créé. Je regrette pourquoi vous existez. Je regrette pourquoi vous avez l'air à respirer gratuitement. Et vous ne reconnaissez pas cette grâce que vous avez de la part du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur.
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. On ne permet, ne permet à personne. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, André, tes mains, André, tes mains, j'abandonne.
Pendant ces moments de prière, le Seigneur te dit, le problème ce n'est pas moi, le problème c'est toi. Tu es resté dans cette vie où toi-même tu te sens gêné. Le problème ce n'est pas moi, le problème c'est toi. Viens, nous discutons avec toi afin que je change ta vie et que désormais ton nom soit écrit dans les livres de vie. Afin que le Seigneur venant dans le monde, il te prenne avec lui. Bien-aimé, ce message vient pour que tu changes ta vie. Ce message vient pour que tu sois parmi les personnes les plus précieuses de Dieu dans ce monde. Quel que soit ce que tu feras dans ce monde, aussi longtemps que tu n'es pas attaché à Dieu, aussi longtemps que tu ne fais pas partie de l'Église, la famille et des enfants de Dieu, ceux qui ont été mis à part pour honorer et glorifier le Seigneur, tu perds ton temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi je vais gagner mon temps? Je comprends que la jeunesse passe vite. Tu peux dire, nous avons encore tout le temps. Tu ne sais pas ton demain. Tu ne sais pas ce qui arrive demain. Tu peux être ici aujourd'hui et demain le Seigneur dit, je me souhaite que tu quittes le monde. Où est-ce que tu vas, mon frère? Où est-ce que tu vas, ma soeur? Si tu es là, tu vas juste lever la main. Nous allons prier avec toi. C'est une grâce que Dieu te donne. Il te dit, je veux que nous puissions discuter. Est-ce que tu es là pour que Dieu change ta vie et Dieu t'aide à marcher en nouveauté de vie? Si tu es là, tu vas lever ta main et nous allons prier le Seigneur. Ce n'est pas question de regarder celui qui est à côté de toi, c'est ta vie personnelle. Merci beaucoup, merci. Tu peux, merci mon frère, merci. Merci, merci ma soeur, merci. Est-ce que tu es là? Tu as besoin de la grâce de Dieu? Merci, je vois ma soeur là dehors, merci. Que le Seigneur te bénisse, est-ce que tu es là? Tu dis, aujourd'hui je veux que ma vie puisse avoir sa valeur. Je ne veux pas être emporté. Merci beaucoup mon frère, merci. Est-ce que tu es là? Le Seigneur te dit, merci, merci mon frère de te mettre debout. Merci, merci mon frère. Est-ce que tu peux te mettre debout si tu es sincère dans ta prière? Pendant que les autres vous inclinez vos têtes, laissez que bien-aimé dans le Seigneur, Dieu change ta vie. Dieu change ta vie. Est-ce que tu peux te mettre debout? Merci, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, le Seigneur dit, viens, je vais discuter avec toi, je vais changer ta vie. Ta vie n'a jamais changé parce que c'est toi le problème. Toutes les fois que tu pries, le Seigneur ne t'écoute pas parce que c'est toi le problème. Et Dieu, sa main n'est pas trop courte. Toutes les fois que tu demandes des choses à Dieu, tu ne les reçois pas parce que ce n'est pas Dieu le problème. C'est toi qui es le problème. Est-ce que tu peux te mettre debout pour que nous puissions prier ensemble? Est-ce que tu peux te mettre debout pour que nous puissions prier ensemble? Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Nous voulons prier. La grâce est de Dieu. La grâce que Dieu te donne ce matin, c'est de discuter avec toi, afin qu'il change ta vie, afin qu'il te permette d'être de ceux-là qui, lorsqu'il revient prendre son église, tu pars avec lui. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. N'hésite pas, bien-aimé. C'est une relation personnelle avec Dieu. Même tes parents n'ont pas de décision sur toi. Si le Seigneur décide que tu pars, tu ne lui expliqueras pas que tu es fils ou tu es enfant de chrétien. Non, chacun va prendre son fardeau lui-même. C'est ça ce que la Bible dit. Chacun va prendre son fardeau lui-même. C'est pour cela que je suis en train d'encourager les bien-aimés qui sont déjà debout. Merci, merci beaucoup ma soeur. Ceux-là qui sont déjà debout, continuez à demander à Dieu ce que tu attends qu'il fasse dans ta vie. Ce que tu attends que Dieu fasse dans ta vie. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je te donne ma vie. Prends tout, Seigneur. Permets que ma vie soit utilisée par toi, afin que je ne vive plus pour moi, mais que je vive pour toi. Les bien-aimés qui sont debout, vous allez vous avancer ici devant. Vous allez vous avancer ici devant, nous allons prier le Seigneur. Les serviteurs de Dieu qui sont ici, ils vont vous recommander entre les mains de Dieu. Tu peux venir ici devant, tu as besoin de la grâce de Dieu. Je vois ce frère qui est dehors, cette sœur qui est dehors. Tu peux entrer à l'intérieur. Tu peux entrer à l'intérieur. La grâce que Dieu nous donne ce matin, il dit, je veux discuter avec vous. Je vais vous changer. Je vais changer votre nature afin que vous ne restiez pas dans ce qui vous prend. Que vous soyez aujourd'hui parmi les membres de l'Église vivante de Dieu. Que vous soyez aujourd'hui parmi les membres de l'Église vivante de Dieu. Bien-aimé, si tu perds ce temps, tu le perds inutilement. Et quand le Seigneur te regarde dans tes péchés, il regrette pourquoi il t'a créé. Il dit, j'en ai marre de te voir même présent devant moi, parce que tu es venu indignement. C'est une grâce que Dieu te donne. Est-ce que tu es là? Tu peux venir ici devant. Nous allons prier le Seigneur. Tu peux venir ici devant. Nous allons prier le Seigneur. Tu peux perdre ton temps en train de prier, te concentrer, mais tu vas voir encore les choses reviennent, parce que tu ne t'es pas approché de Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un d'autre qui dit, moi-même, je veux avoir cette grâce, je veux avoir cette grâce d'appartenir au Seigneur. Toutes les choses que tu feras dans ce monde, aussi longtemps que tu es déconnecté de Dieu, tu perds ton temps. Le Seigneur dit, je marre même de tes constrictions, je marre de ce que tu fais, parce que tu n'es pas attaché à moi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Merci, bienvenue mon frère, bienvenue. Bienvenue, c'est devant le Seigneur que tu viens. Tu ne viens pas devant un homme, tu viens devant le Seigneur. Ma sœur, tu viens devant le Seigneur. Ce n'est pas devant un homme que tu viens. Bienvenue, ma sœur. Je sens que tu combats contre toi-même. Tu combats contre toi-même. Tu te dis, est-ce que vraiment il faut que je me lève? La Bible nous a dit, celui qui aura honte de moi parmi cette génération, moi-même devant le Seigneur, j'aurai honte de lui. Oh, à quoi peut servir-t-il à un homme? Tu gagnes tout le monde, mais quand tu arrives devant le Seigneur, il a honte de toi. Ça va être la mauvaise chose et la plus pire des choses. Les serviteurs de Dieu qui sont ici présents, je vais vous solliciter afin que vous puissiez endurer ces bien-aimés. Je sais que Dieu qui vous a permis d'être ici et qui permet à ces bien-aimés de se mettre debout ici devant, il est celui qui peut soutenir chacun. Les évangélistes, les révérends pasteurs qui sont ici, vous allez venir ici devant, je prierai qu'il y ait derrière chaque personne une personne. Une personne derrière chaque personne qui est ici devant, afin que nous puissions prier le Seigneur et demander la grâce de Dieu en faveur de ce bien-aimé. Être membre de l'Église vivante et stable, c'est choisir une relation personnelle avec Dieu. Être membre de l'Église vivante et stable, c'est choisir d'appartenir à Dieu. Choisir de servir Dieu. S'il y a encore quelqu'un qui dit, moi-même j'ai besoin de cette grâce, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un derrière moi qui prie pour moi, il est encore possible de venir ici devant afin qu'il y ait quelqu'un qui puisse aussi t'accompagner, afin qu'il y ait quelqu'un qui puisse te soutenir dans ta marche. Bienvenue frère, bienvenue. Les occasions comme ça, il ne faut pas les rater. Les occasions comme ça, il ne faut pas les rater. Ces serviteurs, celui qui est à côté de vous, il vous accompagne dans la prière afin que vous quittiez les futilités de ce monde et que désormais vous soyez une personne attachée à Christ. Que désormais vous soyez une personne qui vit pas pour lui-même mais pour Christ lui-même. Bienvenue mon frère, bienvenue, c'est une grâce. Tu peux venir, bienvenue. Il y aura quelqu'un qui va t'accompagner aussi dans la prière. Merci d'être là, merci. Merci d'être là mon frère, merci. C'est une grâce que nous sommes encore vivants et c'est une grâce que nous avons d'appartenir au Seigneur et de pouvoir nous approcher de lui afin de discuter avec lui pour qu'il change notre vie et qu'il nous donne une nouvelle manière de vivre. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Je vais éviter le pasteur surveillant qui va venir ici devant. Il va prier pour ce bien-aimé afin que Jésus, afin que Dieu qui les a choisis et qui les a appelés ce matin accepte d'agir dans leur vie et de leur donner la grâce de lui appartenir désormais.
Et à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix. Dieu notre Père, nous te disons encore merci pour ce moment que tu viens de nous accorder. Un moment très important pour nous, pour l'Église. Un moment que tu as choisi un parmi nous pour parler de ta parole. Nous venons de te suivre. C'est ta parole qui dit qu'il y a une Église vivante et stable, mais c'est nous à ta comme que nous devons rendre cette Église vivante et stable si une fois, seulement si chacun de nous puisse accepter que réellement tu es ce Seigneur. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce à cause de nos frères et sœurs qui viennent de prendre une décision. Ils viennent de t'écouter, à travers ton serviteur. Laisse au Père Céleste cette décision que chacun d'eux vient de prendre puisse se présenter dans leur vie quotidienne. Laisse que ton Esprit Saint, qui est Dieu avec toi, puisse témoigner à chacun d'eux. Et c'est pourquoi nous les remettons entre tes mains. Et continue à les assister. Et continue à les aider. Et continue à les convaincre dans leurs décisions qu'ils viennent de prendre. Sois avec chacun d'eux, dès aujourd'hui jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Amen. Merci beaucoup, cher bien-aimé qui est ici devant. Je vais demander au pasteur Daniel de vous conduire et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.